Des hommes? Non. Des femmes? Non. Des robots? Non. Des surhommes? Implacables. Insaisissables. Invincibles. Insensibles. Aux ordres d'une super-organisation criminelle. Impossible. Rien n'est impossible pour
Culture Prohibée.
Bienvenue pour ce nouvel épisode de Culture Prohibée. Culture Prohibée, c'est l'émission hebdomadaire de la culture panette du Ciboulot animée par l'équipe des films de la Gorgone. Sur le site des films de la Gorgone, www.lesfilmsdelagorgone.fr, vous pouvez télécharger nos précédentes émissions déjà diffusées sur cette antenne. Culture Prohibée, c'est aussi un profil Facebook et un blog culture-prohibée.blogspot.fr.
This system makes of us slaves without dignity, without debt. No, with a devil in our pocket, this incredible money, in the pocket, this money, this shit, this nothing, this paper who have nothing inside. Movies have heart, boom, 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 have mind, have power. Have ambition. I wanted to do something like that. Why not?
À l'heure où sort sur les écrans l'excellent documentaire Jodorowsky's Dune de Frank Pavitch qui raconte le tournage avorté mais aussi toute la préparation de ce qui aurait pu être l'un des plus grands films de SF de tous les temps. Dune de Frank Herbert, revue par Alejandro Jodorowsky. Nous allons écouter quelques échanges que Alejandro Jodorowsky, invité au dernier festival du film fantastique de Gérard May, a eu avec le public. Un échange animé, entre autres, par le critique Philippe Rouillet, éminent rédacteur de la revue Positif.
Pas mes limites, alors je n'ai pas de place. Ça veut dire que tout ce qui arrive dans moi, c'est le centre. Alors, quand je fais le cinéma c'est le plus important. Mais quand je lis un tarot à une personne, c'est autant important.
Mais justement, qu'est-ce qui va vous décider de dire tout d'un coup, je vais faire un film. J'arrête autre chose pour me consacrer à faire un film.
Mais je vivais dans un tout petit village. Il s'appelle Tocopilla, il y avait 2000 personnes. L'unique amusement que j'avais, c'était une bibliothèque créée par les maçons anglais, avec des livres ésotériques, et après un petit cinéma où je voyais des films. Alors je voyais Frankenstein, L'Homme Loup, Les Vampires, et un petit film de science-fiction, le premier, ce qui viendra. Et pour moi, le cinéma, c'était comme des contes de fées. Les cowboys, les américains, c'était pour moi un pays de contes de fées. C'était incroyable. Alors pour moi, le cinéma, c'était une partie de mon mental, normal, n'est-ce pas? Normal. C'est quoi te dire? Moi, je pense que même pas, en ce moment-là, je suis dans une scène de cinéma, n'est pas là ça va être là quelques moments et ça va disparaître comme ça disparaît un film. On est en train de jouer, moi qui je suis, je ne sais pas qui je suis, je ne sais pas qui vous êtes, je ne sais rien moi, hein. Mais je sais que l'unique chose que je sais, que tout ça va disparaître, ça, pas disparaître, tout ça va changer. C'est du cinéma.
Mais par exemple, pourquoi avoir attendu 23 ans pour faire la danse de la réalité?
En réalité, je n'ai pas attendu. En réalité, c'est que ça s'est arrivé comme ça parce que je ne gagne pas ma vie avec l'art, je gagne ma vie, mais il vient. Ce que je fais, ce n'est pas pour gagner ma vie, c'est pour m'exprimer. Alors, je n'ai pas besoin de faire un film par année. Alors, quand je connais beaucoup de jeunes hommes qui sont des talents incroyables, mais ils doivent vivre de ça, ils ne savent faire que le cinéma. Donc, ils doivent se vendre, ils sont obligés à se vendre. Moi, je ne suis pas obligé à me vendre. Alors, j'ai fait un film quand tout mon être a changé et j'ai quelque chose à dire. Quelque chose à dire. Et qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas se gratter le nombril, parce que le nombril a un petit odeur à égomanie. Je ne vais pas dire de moi, je ne vais pas chercher à dire quelque chose pour qu'ils m'applaudissent, ou pour avoir des prix, ou pour être en train de donner une conférence ici. Sinon, je le fais parce que je cherche à moi quel est le meilleur que les autres et moi, nous avons dedans. Je pense que l'art, c'est ouvrir une porte à la personne qui est en train de voir les films, pour que la personne découvre ses propres valeurs, ce qui est authentique dans elle-même. Ça, c'est dire. Je vais te dire ce que tu sais, mais que tu ne te rappelles pas ce que tu as. Voilà, ça, c'est l'histoire à moi.
On a tous remarqué que dans vos films, il y avait une grande place pour le symbolisme et pour le sacré.
Oui.
Et presque une partie de blasphème, et qui n'est pas vraiment un blasphème, c'est une sorte d'admiration un peu sacrée, un peu hérétique. Et justement, on se demandait quelle était votre position par rapport à la religion, en général, dans votre vie et dans votre œuvre.
Difficile question.
Merci.
C'est une difficile question parce que ça, ce sont des croyances. Ce ne sont pas des pensées. Alors, quand tu... Personne n'est incroyance. Et si la personne n'est pas préparée spirituellement, elle va se fâcher énormément de que tu aies une autre croyance. Tu vois, Charlie, on a tué des pauvres dessinateurs victimes d'une imbécilité. C'est une imbécilité. Croire que ce que tu crois, tout le monde doit le croire. Alors, la religion a ce défaut. Qu'est-ce que c'est Dieu? C'est un impensable. C'est tellement immense à l'univers, cette énergie, on ne sait pas ce que c'est. C'est un mystère. Alors on le met un nom et on s'approprie d'un Dieu. Et si tu ne crois pas ce Dieu, tu fais une insulte à quelqu'un, non? Pour moi, le Dalai Lama et les papes, ouais, c'est comme des clowns. Oui, le pauvre pape qui n'a pas un couple. À la fin de sa vie, il fait une courbe comme ça avec son corps, tellement se sont masturbés. Moi, vraiment, je pense que le pape devait avoir une papesse. Ou un fiancé masculin, pourquoi pas? Un couple masculin, pourquoi pas? On est la libération, non? Mais tout seul, quel horreur! L'unique chose qui peut se permettre d'être tout seul, c'est Dieu. C'est l'unique. Nous sommes des êtres collectifs. Hein? Bon, alors la religion, à mon avis, dans mon période surréaliste, non? On s'est moqué, non? Avec Topor avait dessiné que Christ marche sur la surface de l'océan et tout à coup il y a une banane qui flotte, il trébuche, il tombe. Voilà, c'était l'autre que Christ est cloué et on l'enlève en clou de là, je vais le libérer, on allait encore là, et il tombe parce qu'il est pris dans les pieds, quoi, des choses comme ça. On s'est moqué, tu vois. Mais après, ça ne sert de rien. Pour moi, la religion, quand elle est noble, il faut la laisser tranquille. Chacun avec ses croyances. Le cerveau vit des croyances. Premièrement, il vit dans un monde constitué par des paroles. Notre langage, c'est un langage de mots. Mais aussi, on vit dans un monde personnel de sentiments. Le langage produit des sentiments. Et les sentiments vont produire des désirs. Et les désirs vont produire des actions. Tout ça, c'est un rêve. Alors, chacun a son rêve particulier. Chacun avec sa neurose. Respectons la neurose de chacun, on dit. Et la neurose va créer des peaux, des cancers, des dents, des déformations, des grippes. Va créer des choses, la neurose. On est des animaux neurotiques. Alors, la première chose, c'est aller en dessous de la neurose et naviguer dans l'océan de l'inconscient.
Écoutez Culture Prohibée.
On parle toujours de l'inconscient. Mais l'inconscient, c'est une chose qui a l'inconscient, c'est le passé complet. Au plus profond de l'univers, l'inconscient, c'est le passé. Après, il y a la mémoire, les souvenirs personnels, et après, il y a la supraconscience qui est là. Et la conscience est un œil qui regarde. Allez, regarde ça, le présent. Alors, si tu le forces en paix, il va dans l'inconscient, non? Alors là, c'est Freud. Il se force en paix, mais avec son cerveau. Jung, il se force de regarder l'inconscient, mais avec un regard conscient. Et après, ils vont vers le futur, ils font de la science-fiction, c'est le futur. Mais ce qu'ils font pas, c'est qu'avec sa conscience, ils regardent la conscience. Pour être conscient, avec, il faut avoir un regard que la conscience sait que c'est une conscience. Et quand je sais que je suis conscient, je commence à rentrer dans le monde de l'inconscient et le supraconscient. Et c'est une immensité. C'est une immensité. Chaque chose, c'est une immensité. Moi, par exemple, regarde. Je dis, combien de personnes il y a ici? Disons, il y a une centaine, 150. Le nombre, disons une centaine. Il y a une centaine de cœurs. Là, il s'entend qu'il est en train de battre. On ne sait pas pourquoi il bat. Tu sais, j'ai vu un poulet, un œuf, qui allait donner un poulet, il avait la légion, et dans la légion, il avait une petite tache rouge, petite, qui faisait poum, 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 poum. Cette petite point allait être le cœur du poulet. La première chose qui est créée d'un être humain, c'est le battement du cœur. Bon, bon. Que c'est le battement de tous les cosmos. Dans nous. Alors, dans ce cœur qui va, il y a un cosmos. Le sexe, quoi te dire, vous êtes assis sur un sexe, non? Avec tout le thriller, l'inquisition, les femmes brûlées, la dépravation, tous les fantasmes. Et si je me mets à penser aux chaussures qui sont ici, les chaussures, je les mettrai tous les chaussures comme ça, et voilà, il y a une œuvre d'art que je mettrai dans les MoMA de New York. Parce que les MoMA de New York, mec, n'importe quelle ordure signée, c'est de l'art moderne. Mais oui. Bueno, je commence à délirer, alors fais-moi une autre question.
Monsieur, j'ai rencontré récemment un puissant milliardaire français, et je lui ai demandé. Qu'est-ce qu'il ferait, il a commencé en tant que producteur, qu'est-ce qu'il ferait aujourd'hui s'il avait à faire du cinéma? Il m'a dit, faites des séries. Est-ce que vous, Alejandro, la série pour la télé, est-ce que vous, Alejandro, vous auriez accepté de faire des séries?
Ah, ça, c'est une question intéressante, parce que j'aime beaucoup les séries, ça m'amuse. Le problème des séries, c'est qu'elle continue, elle continue, et quand elle finit, il reste avec rien. Ça, c'est tout, hein? Comme les mangas japonais. Continue, tant qu'il y a des publicités à bébé, et après, c'est fini, bon, c'est fini, ya, ça y est. Une autre. Bon, alors, je ferai une série si je pouvais faire ce que... Je suis en train de faire une série, tu sais. Sí, parce que la danse de la réalité, c'est un chapitre. Maintenant, la poésie sin fin, poésie sans fin, c'est la continuation de la danse de la réalité. La danse de la réalité, c'était ma vie infantile. Poésie sans fin, c'est ma vie adolescente. Après les trois, ça serait ma vie à Paris, avec le surréalisme et la philosophie, tout ça. Le quatrième, c'est ma vie au Mexique, que c'est avec les chamans, tout la merveille, tout ça. Et le cinquième, c'est mon aventure amoureuse avec Pascal, qui est là, petit peu levé. Lève-toi. C'est ma femme.
Et aussi, Patrice de costume.
Et là, je vais te dire, j'ai 45 ans, plus qu'elle. C'est déjà une monstruosité, tu vois. Alors, je vais parler de ça, de la monstruosité de l'amour. Et comment le vrai man, il existe. Parce que jusqu'à 74 années, et je croyais que l'amour n'existait pas, comme tout le monde, non? C'est que c'est chose, c'est bizarre. Mais le vrai amour des âmes se trouve et vraiment se trouve. Et on connaît ce que c'est un amour qui dit beaucoup de réincarnation. Parce que je dis réincarnation dans le présent, non? Parce que le présent, il est éternel dans le présent, pendant qu'il dure. Un amour qui est éternel pendant qu'il dure. Le chercher, le montrer, c'est le cinquième épisode. Non? Cinq épisodes de 2 heures, ça fait 10 heures. Et comme ça, je suis en train de faire une série. Qui ne va pas passer à la télévision, évidemment. Mais on va les vendre direct. Et ma prochaine aventure, c'est me libérer. Ah, il a mon formidable associé, Tipeee TV. Et si j'ai le temps de raconter l'histoire, comment je reconnais ce formidable produit.
Oui.
Tu veux, le cuento? Bueno, tous les mercredis, il y a un café à côté de moi. Je descendais pour lire le tarot, ici, gratis, ici bien. Et je l'ai fait pendant 20 ans, tous les mercredis, je lis le tarot à une 22 personnes. Et un jour, il y avait un secrétaire, comme ça, me dit, Jodo, parce que ça m'appelle, il y a un garçon là, assis, en face du café, chilien, qui veut vous voir absolument. Et il dit, aujourd'hui, je n'ai pas envie de descendre, je suis fatigué. Voilà. Alors, on va faire ça, parce qu'il pensait que c'était un clochard. Hein? Chilien, un autre clochard chilien. Alors, moi, toujours par magie, j'ai dans les poches des billets d'argent, non, différents. Parce que je pense que l'argent, il y a une cabale pour les faire disparaître, pour qu'il y ait des numéros et on te met dans la banque et tu puisses travailler au noir, comme on doit travailler, n'est-ce pas? Alors, j'ai toujours des billets que parfois je touche pour prendre de l'énergie. Que j'aille d'argent ou pas, j'ai des billets dans ma poche. Alors, dit, j'ai pensé qu'il allait sortir 10 euros, donne-le. Et ça sortit un billet de 100 euros. Mais quand je dis qu'une action a commencé, on ne peut pas revenir en arrière, je dis donne-le les 100 euros. Il y a un milliardaire qui veut faire du cinéma. Un milliardaire veut toujours faire de l'argent. Et quand il fait une œuvre charitable, c'est pour qu'il les impôts, pour se libérer des impôts. Un milliardaire n'est pas un homme charitable, je ne crois pas. Non, s'il veut faire du cinéma, attention, tu ne seras pas libre. Pas travailler avec des milliardaires. Jamais. Thank you.
écoutez Alejandro Jodorowsky au micro de Culture Prohibée.
Qu'est-ce que c'est la psychomagie? Et si vous aimez David Lynch?
Dès qu'on m'a par David Lynch. Oui, j'aime beaucoup. Beaucoup parce que les 100 films qu'on a passé après le topo, quand j'ai ouvert l'Elgin, c'était le film premier film de Lynch.
Les Razorhead.
Merci. Alors, on avait quelque chose. Je faisais on présentait la montagne sacrée dans le festival de cinéma à New York. Quelques années après. Parce que pour que les Américains comprennent la montagne sacrée, ils ont passé 25 années. Ils n'ont pas ouvert que 25 années plus tard, ils l'ont compris. Je suis patient. Alors, on était dans le café, je vais arriver à Lynch, non? Qui avec ses cheveux comme ça. Les cheveux blancs, engominés comme ça, non? Et il me regarde à moi, on s'est regardé, il s'est approché, et on s'est donné un abraço, comme ça.
Nicolas.
Ça doit avoir duré une minute ou deux. Et après, on s'est séparés, il est parti, je me suis assis, continuer à monter. C'est tout ce que j'ai eu avec Lynch. Un comme ça. Mais c'est comme ça, avec Fellini par exemple, j'étais à Rome en train de montrer Santa Sangre, enfin, et dans la presse j'ai déclaré que j'admirais Fellini. La secrétaire m'a dit Fellini est en train de montrer la chose de la Lune, enfin que c'est la
Lune. Ok, de la Luna.
Si, il vous invite à venir voir la filmation. Ok, oui. Moi, il était beaucoup plus âgé que moi, je l'avais admiré quand il a vu l'Estrada. Ça m'a rentré le vrai cinéma à la tête, non? Alors j'arrive là, et apparaît Fellini, me regarde, ouvre le bras et me dit « Jodorowsky !» Et j'ouvre le bras et lui dis « Papa !» Et on s'embrasse comme ça, il commence à pleuvoir, il pleut, tout le monde court pour son côté, et ça y est. Alors, avec Fellini, c'est un mot. Avec Lynch, aucun mot. Mais les vraies choses se passent en dessous du langage, tu vois. Ça, c'est la première réponse. C'est un vrai artiste. Lui, c'est un vrai artiste. Mais malheureusement, il s'en rendit compte qu'il était pris dans le système et il s'est libéré par la méditation transcendentale. Hein? Bueno, il n'a pas la force de faire des films avec non-producteur. C'est toujours perdre de l'argent, pas possible. Pour un Américain, perdre de l'argent, interdit. Parce que pour eux, les 10, c'est le dollar. C'est une religion, le dollar, pour les Américains, non? Alors, chaque jour, un new dollar.
Est-ce que vous pensez que Fellini, est-ce que David Lynch a perdu sa magie? Parce que l'argent...
Fellini, non.
Non, pardon.
Lynch. Est-ce que David Lynch aurait perdu sa magie à cause de l'argent?
Un tout petit peu, oui. Il pourrait aller plus loin. Son premier film, c'était à fond. Les autres, c'est pourrait aller plus loin. C'est pourrait aller plus loin. Je pense que oui, pourrait aller plus loin. Sincèrement, il pourrait aller plus loin. Là, pour les critiquer. Mais il pourrait aller plus loin. Maintenant, on commence la continuation de sa série de télé. Il pourrait ne pas l'avoir fait. C'est doublé la main. Mais c'est nécessaire, c'est pour ça que dit que pour certaines personnes, une petite prostitution lui permet d'arriver. Je suis un cas différent, ça, je reconnais, je suis différent. Un cas extrême, je suis, non? Mon ami Wendy Refon, Nicolas, il est obligé à faire de la publicité. Il gagne pour chaque spot publicitaire 300 000 dollars. 300 000 dollars. 15 jours de travail, 300 000 dollars. Je l'aime beaucoup, comme c'était ma famille. Mais avec une angoisse, parce qu'en faisant 300 000 dollars, il va vouloir 100 millions de dollars. Il va délirer, il va venir à notre dégénéré comme Spielberg. C'est un vrai dégénéré. En train de tuer les cobras, sont en train de tuer le cinéma. Excuse-moi. Alors, l'autre question, c'était quoi?
C'était la psychomagie. Oui, devant. C'était juste la psychomagie, qu'est-ce que c'était? Mais...
Ah, ça, c'est comme si à Freud, il lui demandait qu'est-ce que c'est la psychanalyse. Il y a des livres déjà, psychomagie, manuel de psychomagie. A ver, c'est le résumé comme un tweet. Non, mais j'ai un million de suivants dans les tweets. Hein. En espagnol, je regrette. Mais les tweets, c'est pour moi, les haïkus, c'est la littérature du siècle 21. Parce que ça te met le cerveau dans 140 caractères. Et... Mais c'est chinois, le nouveau matérialiste du monde, les chinois, qui ont une civilisation tellement incroyable. Maintenant, tu sais ce qu'ils ont fait, c'est stupide. Stupide des Chinois, ils ont cassé la limite du tweet. Ils viennent de casser. Maintenant, tu vas pouvoir écrire des tweets les plus longs que tu veux. Les connards. L'essence du tweet, c'était la cause. Maintenant, on va faire des haïkus japonais, mais au lieu de faire 5-7 petits, on va faire, vous pouvez faire 3 pages de poèmes, c'est un haïku. Mais les connards. Mais c'est, tu vois, inconcevable.
Écoutez Alejandro Jodorowsky, réalisateur de Santa Sangre, au micro de Culture Prohibée.
Ah oui, hier je me suis bien amusé parce que c'est l'horreur, c'est une chose simple, c'est à la base, non? Cette espèce d'horreur d'être mangé. L'horreur maintenant, c'est d'être mangé par la banque. C'est la même chose. Le loup-garou, c'est la banque maintenant qui nous effraie. Tout d'un coup, les ballons éclatent et on perd tout l'argent de la banque, etc. Alors on vient à quelque chose d'essentiel, animal. L'horreur, c'est animal. Mais quand on va dans l'esprit, on vainque le rêve. Et on arrive à l'extase, on arrive au sublime. Et ça nous manque d'arriver au sublime. Alors pourquoi on est en crise le cinéma? Parce que ça a été toujours une affaire, il faut comprendre. Et dans l'affaire, il y a l'argent de la production, la publicité, l'argent de la publicité et l'argent de la distribution, les salles. Et tout ça vont te prendre l'argent. Pour toi, créateur, tu as besoin de vivre. Comment tu vas vivre du cinéma avec ce système? Tu vas te vendre au système, te prostituer. Tu vois DiCaprio, le grand DiCaprio en train de vendre des montres. No? Penélope López en train de vendre des produits de beauté. L'autre affaire de publicité au café, l'autre affaire de publicité au whisky. Ce sont des prostituées qui sont en train de vendre de l'Egérie, de Lancôme. Non, mais c'est une honte ce qu'ils sont devenus les acteurs.
Excusez-moi de vous couper. On parle d'argent, on parle aussi de voler nos pensées aussi quelque part aujourd'hui, je trouve. C'est-à-dire qu'on n'a plus d'identité par rapport à...
Mais ne sois pas naïf, tu parles de l'Église, tu parles de la richesse de l'Église. Oui. La religion, c'est un truc pour recevoir de l'argent. On est dans l'époque que Dieu et l'espiritualité, c'est l'argent. Tout, c'est une emprise économique, tout, absolument tout. Et dès que tu nais, tu es endetté. Alors, on peut parler de l'argent quand on parle de spiritualité. Alors, la solution qu'on a, vous, nous, les jeunes, la solution, c'est finir avec le système. Maintenant, avec les nouvelles techniques, c'est très facile de faire des effets spéciaux. C'est pas si cher, les effets spéciaux. On peut les faire avec très, très peu. On n'a pas besoin de théâtre. On n'a pas besoin de publicité. Chaque personne doit lancer son film en internet. C'est là qu'il faut lancer le film. Il faut finir avec le système. Il faut être toi, le producteur, celui qui fait la publicité. Il faut être tout. Enlever ton œuvre de la main de businessman. Fini le businessman. Fini. Fini le producteur. Fini le Lancôme. Fini la publicité. Fini tout ça. Je fais une œuvre et je la montre. Et je crée mon public. Quelle est la différence entre le cinéma actuel et le cinéma d'artiste? Le cinéma d'artiste n'est pas compris tout de suite parce que le public n'est pas préparé. Et le cinéma industriel cherche un public déjà établi. Les ados, bueno, je fais une histoire de dragon. Et là, je vends 1 million d'exemplaires. Parce que c'est un public déjà réalisé. Déjà, je suis allé chercher le public. Je me suis trouvé un écrivain qui fait ça, qui a vendu des millions d'exemplaires. Il a dit, je ne crois pas en la magie. Et il écrit de quoi pour gagner 100 millions? Il écrit sur la magie, des dragons, des fées, de tout. Sur la magie, donc c'est un escroc. Parce qu'il ne croit pas en la magie et fait un roman de magie. Un escroc! Il faut arrêter avec ça. Toi, tu vas lancer. Je vais lancer mon prochain film. Si mon ami veut, hors de théâtre. En France, déjà on l'a vendu, ce n'est pas possible. Mais dans le monde, on va créer notre compagnie, n'est-ce pas? Et on va les lancer. On n'a rien à perdre. Pourquoi? Parce que, comme quand la Pathé et ces grands nous lancent, on ne gagne rien. On dépasse 3 millions, rien. Alors on n'a rien à perdre. Si nous, on vend les films et on gagne 20 000 euros, c'est déjà. On a gagné quelque chose. Parce que dans le système, on gagne zéro. Et toi, tu vas gagner zéro et tous vont gagner zéro. Donc, lancez-vous à faire votre propre emprise. Lancez votre propre film dans votre propre canal et créez votre public. Moi, pourquoi je suis là? Tu crois qu'au commencement, quand j'ai fait Fandolis, je serai ici? On a voulu me tuer. Quand j'ai fait au Mexique,
au festival d'Acapulco, oui, ça a été gratiné, oui.
Mais on a voulu me lâcher.
Vous avez raconté ce qui s'est passé là.
Oui, parce que j'ai présenté un film que les Mexicains jamais avaient pensé de voir. Aujourd'hui, tu les vois, c'est un film d'avant-garde. Mais non, vous voulez me lâcher, j'ai dit, m'échapper de. On a fini tous les lumières du fort, et au fond d'une voiture couchée, j'ai dit sortir. Parce que vraiment, on voulait me lâcher. Et l'Indio Fernandez, que c'est un directeur comme ça, énorme. Mais énorme, il avait tué déjà deux personnes. Oui, oui. ouvrier qui travaillait, la m'a mis en prison parce que c'était une star. C'était le premier directeur mexicain qui vendait des films aux États-Unis. Il dit, je vais tuer Jodorowsky. Alors je suis arrivé à l'hôtel, il était à la fête, il était en train de se prendre son alcool, parce qu'il est sous là. Je lui demande au garçon, qu'est-ce qu'il boit? Tel whisky. Envoyez-le à mon nom, des bouteilles. Il arrive, les deux bouteilles. Il boit, il boit, quand il est hyper sous, dit, je vais boire Jodorowsky. Et j'arrive, tu vois, j'étais courageux. Je dis, oh là là, les journalistes sont arrivés, je voudrais être dans le prochain film de Jodorowsky son assistant directeur. Ah, voilà, il m'a accepté. Polanski m'a accepté, il était là aussi, il m'a accepté. Mais j'étais comme un bandit. Quand je faisais le topo dans les scènes où les soldats dansent avec des civils, des couples d'hommes, sont 300 couples d'hommes. Le propriétaire de l'endroit, qui c'était un charro, la société de charros, la société de cowboy mexicain, m'a mis comme ça, un revolver dans la poitrine. Là, il m'a dit, arrête de filmer ou je te tue. Je ne sais pas qu'est-ce qui m'est arrivé, que j'ai parlé en japonais. On l'a mené, il a eu peur. Et j'ai filmé. Et después, monté dans la montagne sacrée, monté là. Et 15 jours avant, 15 personnes étaient mortes pour une tempête. Et une tempête est venue avec les tigres, avec les singes, avec tout. On courait en bas pour s'échapper, parce que c'était mortel. Et j'ai trébuché et j'ai commencé à rouler. Et avec un marteau pic, poum, j'ai fait comme ça, j'ai dit, je ne peux pas mourir, il faut que je finisse cette merde de film, je le finirai. Et alors je suis monté, et là que c'est là que j'ai créé la fin de la montagne sacrée, c'est pas un conte de fées, c'est faux tout ça, comme vous verrez le film, c'est fini le film, et j'ai trouvé le film, tu vois, mais j'ai risqué ma vie. Dans chaque, qu'est-ce que je t'ai dit, tellement fatigué j'étais, par les derniers films, je suis tombé comme ça, boum. Je me suis cassé le front. Hein. Et par miracle, je n'ai pas resté, mais j'aurais pu me casser les bras, et la hanche et les genoux. Et le lendemain, j'étais en train de travailler encore. Miracle. Mais je me suis sauvé. Mais ça, tout ça était dangereux. Et maintenant, de quoi je vis? J'ai mis tout mon argent dans ce film et l'autre, non? Tout. Toutes les économies, parce qu'en vendant des années, j'ai économisé $1 million. 22 années pour économiser $1 million. La moitié du million, je l'ai mis dans la danse de la réalité. Et l'autre million, dans poésie sans fin. Et mais je suis à blanc. Et j'ai gagné ma vie en faisant des bandes dessinées. Ça, c'est mon art industriel. Parce que là, je dois être amusant, raconter des histoires. Hein? C'est ma petite prostitution. Et je peux vivre tranquille et comme ça je prépare les troisièmes. Cette fois, je ne sais pas d'où, mais je dois avoir l'argent des fous, des personnes qui sont générées, des jeunes personnes, des escrocs. Le gars qui a ramassé l'argent pour la montagne sacrée s'est échappé avec $300 000 en Israël, il est parti. Et pendant 6 semaines, j'attendis. Parce que le film était, il y avait les Américains là, je devais finir le film, j'attendais. Et on m'a dit, mais qu'est-ce qu'on va faire? On va dire, quand Bodhidharma est arrivé en Chine pour amener le bouddhisme, il n'y avait personne, il s'est mis en face à un mur et il attendit qu'il vienne un disciple. Et le disciple est arrivé, il n'a pas cherché dans les millions de Chinois, le disciple est venu. Alors moi, je vais attendre que quelqu'un m'amène $300 000 enveloppé en papier de journaux, j'ai dit. $300 000 cash en papier de journaux, je vais attendre, j'attendis, tout le monde dit, c'est fou, tu es fou. Et au bout de 3 ou 6 semaines, je ne me rappelle pas, Robert Teicher, qui c'était un Américain qui a été mon assistant, je l'utilisais comme assistant, m'a amené les Coca-Cola, non, les citrons que j'ai mangé, mon assistant, non, quand il filme, tu as besoin, quelqu'un. Il avait parti, non? Il a dit, cet Américain s'est échappé, il est arrivé avec $300 000 enveloppé en papier de journaux. Parce que là, il a découvert que son père était un milliardaire, le plus grand fabricant de chaussures des États-Unis.
life, things come, you say yes. Things go away, you say yes.
C'était Culture Prohibée, une émission réalisée en partenariat avec Les Films de la Gorgone, www.lesfilmsdelagorgone.fr. Toutes les réponses à vos questions sont sur le blog de l'émission culture-prohibée.blogspot.fr. Culture Prohibée était une émission préparée et animée par votre serviteur Jérôme Potier, dit la Gorgone, assisté pour la programmation musicale d'Alexis, dit Admiral Lee. Une émission animée par Léo Magnin, alias Léo The Last. Également à la technique d'ailleurs. Salut les gens, à la prochaine!
I'm doomed. I'm doomed. I'm doomed.